C'est un grand plaisir pour moi d'introduire avec Jean-Louis Durper cette table ronde « Ergonomie et interactivité, les apports de la recherche ». Pensons qu'accompagner tous les élèves du 21e siècle dans leur ambition scolaire et professionnelle requiert des écoles innovantes et un enseignement fondé sur les dernières conclusions scientifiques. Et c'est la mission du département Recherche, Développement, Innovation et Expérimentation qui a été créée en juin dernier au ministère de l'Éducation nationale que d'encourager l'innovation des élèves, l'innovation des enseignants et l'innovation dans le système éducatif en général. Alors on sait que le numérique n'est pas toujours innovant, mais qu'il est souvent innovant dans ce qu'il change dans les pratiques pédagogiques des enseignants. On a vu des exemples d'évolution de tableaux, du tableau noir au tableau vert, au tableau blanc et puis au tableau numérique interactif. C'est bien autour de ces nouveaux outils qu'il faut réfléchir sur la question des pratiques et c'est la question de ce séminaire. Alors, dans le cadre de la deuxième mission du département, j'ai la lourde responsabilité d'essayer de faire connaître à tous les niveaux du système éducatif les travaux de recherche qui nous ont été brillamment présentés à l'instant par Daniel Handler. Faire connaître ces travaux de recherche, que ce soit dans le domaine des sciences cognitives, que ce soit dans le domaine des sciences de l'éducation, de la sociologie de l'éducation, de l'économie de l'éducation aussi, pourquoi pas, et puis donc aujourd'hui l'ergonomie. Alors ces deux journées sont l'occasion d'approfondir la question des usages pédagogiques innovants du numérique et elles sont aussi l'occasion de mettre en regard ces usages pédagogiques innovants avec les travaux de recherche. Et alors pour mener à bien ce travail, la DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, et notamment notre bureau en lien avec le bureau des usages et ressources numériques qui est dirigé par Alain Tillet qui est présent dans la salle, réalise une carte mentale des usages pédagogiques innovants des TIS dans une nouvelle collection que nous coproduisons avec le CNDP, une collection de cartes mentales qui a ce format-là, donc dont la première édition s'intitule Innover pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation. Et donc nous réfléchissons à une carte mentale aussi sur les usages innovants du numérique. Alors je vais demander si c'est possible. Donc voilà le format.
En bas là, ce bouton là. Ouais.
Donc c'est ce type de carte mentale que nous essayons de produire aujourd'hui. Donc avec deux versions pour l'instant, une version apprendre avec le numérique et une version enseigner avec le numérique. Et alors je retiens par exemple parmi les mots-clés que nous pourrions creuser, celui d'Albert-Claude Benamou des TIS comme catalyseur d'intelligence collective. Dans le cadre de l'apprendre avec le numérique, ces mots-clés peuvent être tout à fait utilisés dans ces cartes mentales. Donc cette carte est un projet, elle n'est absolument pas présentée dans sa version définitive ici. Notre objectif tout au long de ces journées, c'est de nous nourrir des présentations qui seront faites, des échanges qui auront lieu avec la salle, pour venir modifier, enrichir cette carte conceptuelle, carte qui est adossée à une cartographie de la recherche également. Ce que nous souhaiterions, c'est que dans une version numérique, interactive de la carte, il puisse y avoir derrière chacun des sujets des travaux de recherche qui soient renseignés. Voilà. Et donc nous espérons ainsi, à notre niveau, contribuer à ce que Daniel Handler expliquait, présenté comme une recherche translationnelle. Je ne sais pas si notre démarche s'intègre parfaitement dans cette définition, mais notre volonté est véritablement de faire connaître à l'ensemble des acteurs du système éducatif ces travaux de recherche. Je vais laisser la parole à Jean-Louis Durper qui va introduire la table ronde plus spécifiquement sur la problématique de l'ergonomie. Merci.
Merci Bénédicte. Moi aussi je suis très, très heureux d'être pour cette introduction avec Bénédicte Robert. Les collaborations entre l'inspection générale et la DGESCO sont très très fréquentes. Je voudrais peut-être citer dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui des travaux en cours sur la création récente d'un parcours de culture de l'information qui est vraiment quelque chose de transdisciplinaire. On l'a beaucoup évoqué déjà depuis ce matin, qui rejoint des travaux de l'UNESCO et puis aussi toute la transformation des lieux de travail que sont les CDI aujourd'hui vers des Learning Resource Centers. Donc c'est des travaux que l'on mène ensemble. Je voudrais aussi ajouter, dire que l'inspecteur général est très mobilisé sur les questions qui font se rencontrer la documentation, l'informatique et l'information. Et je salue ici mes collègues, en particulier Catherine Bizot, avec qui on travaille régulièrement dans le cadre d'un nouveau groupe créé à l'inspection générale ou d'un intergroupe sur ces questions d'éducation à l'information. Enfin, je voudrais dire que par rapport à cette table ronde ergonomie et interactivité, l'inspection générale est aujourd'hui très mobilisée sur des observations des pratiques. Il y a de plus en plus de collectivités qui s'engagent dans des équipements massifs. Il y a 20 ans, on le voyait avec Gilles Braun, notre jour, qui exhumait un rapport intéressant et qui concernait sur l'école et la cité. Eh bien, on voit que s'il n'y a pas effectivement un projet extrêmement fort, extrêmement différent de relation entre les savoirs et les élèves par le truchement de ces outils, eh bien, ça pourrait ne changer que peu de choses. Donc, il y a certainement un besoin de recherche sur les objectifs profonds de l'introduction du numérique et sur les modifications que cela induit en matière de formation des jeunes. Et je pense que les conférenciers qui sont autour de nous vont éclairer particulièrement ces questions. Et notamment, à travers tous ces sujets, il y a la question fondamentale de lecture, qu'on retrouve à tous les échelons. Et je vais passer la parole immédiatement à Thierry Bassineau, spécialiste de ces questions et directeur du Lutin à la Cité des sciences et de l'industrie, spécialiste de lecture numérique.
Oui, merci beaucoup de votre invitation là au séminaire Sankore. Et je voudrais parler donc très très rapidement du travail qui avait été qui a été réalisé au laboratoire du Lutin, donc laboratoire des usages en technologie numérique. Moi, je suis psychologue cognitif, donc on a parlé des sciences cognitives avec Daniel. Et l'idée, c'est d'essayer de connaître, notamment dans ce laboratoire, de connaître quels sont les comportements liés à l'usage des nouvelles technologies. Alors que ce soit le tableau numérique, comme on va le voir ici, ou que ce soit la tablette, que ce soit le téléphone portable, que ce soit l'écran. Alors, la question qui... Donc, cette étude avait été réalisée aussi avec l'aide donc, du ministère de l'Éducation nationale, comme vous le voyez là sur la diapo. Alors, pour aller assez rapidement dans le vif du sujet, on l'a vu aussi tout à l'heure, en fait, on a une variété de supports en classe. Alors, j'ai fait des diapos assez schématiques là-dessus, disant ce qui nous... la question importante, c'est est-ce que le comportement de lecture, le comportement et pas simplement de lecture, va être modifié par ces supports ? Alors que les supports, souvent, que ce soit le livre, que ce soit le tableau noir, on a vu qu'il avait été introduit plutôt au 19e siècle, au début du 19e, et le livre, donc, depuis Gutenberg, depuis le 15e siècle, etc., même bien avant, est-ce que les nouveaux supports électroniques, le smartphone, le téléphone, l'iPad, etc., vont changer notamment ce comportement de lecture ? Donc, et du coup, est-ce que les TNI, ces fameux tableaux blancs numériques, interactifs, vont aussi changer le comportement de lecture, notamment lorsque l'enfant se trouve, que ce soit dans une situation collective ou que ce soit dans une situation plus individuelle, obligé à lire sur ce support-là. Alors, la propriété des TNI, encore une fois, là, j'ai donné des propriétés globales, interactivité, multimodalité, certes, tout ça, c'est vrai. Ma question fondamentale, c'était d'ailleurs une question qui avait été posée par le ministère lorsqu'on a commencé ce projet, c'est très bien d'utiliser les nouvelles technologies, c'est absolument ce qu'il faut faire, c'est vrai que ça va dans le sens du vent. Maintenant, il y a des questions assez fondamentales, c'est-à-dire que lorsqu'on remplace, comme ça s'est passé un petit peu massivement dans toutes les écoles de la région parisienne, lorsqu'on remplace le tableau noir par les TNI, il y a des questions même carrément de bon sens, c'est-à-dire que on s'aperçoit que quand il y a un rayon de soleil, par exemple, eh bien on voit plus sur le TNI parce qu'il y a un reflet énorme. Alors ça peut être interactif, il y a des belles diapos, etc. Sauf que l'enfant qui est à 8 mètres au fond de la classe, il n'y voit plus rien. Donc Une question qui s'est posée, c'est pas simplement de mesurer le reflet, bien sûr, ça paraît évident, mais c'est de mettre au point une plateforme de tests d'évaluation. C'est un peu notre objectif, nous psychologues, en dehors des belles théories qui peuvent être données, mais notamment une méthodologie de tests de cette lecture. Alors tests qui peuvent aussi être utilisés pour d'autres choses que le TNI, mais aussi donc pour les tablettes. Alors quelles sont les différences qu'on a entre les supports? En règle générale, on a ces différences-là. On a une différence en termes de luminosité. On a un éclairage naturel quand c'est sur des supports rigides, papier, tableau. Alors le TNI, il y a différents types de TNI, mais quand c'est de la projection, de la rétroprojection, bien sûr, ce n'est pas le même support, ce n'est pas un rétroéclairage. Le mode de présentation, statique, dynamique, ça, ce sont ce que je vous liste là sur ce tableau. Ce sont les différentes propriétés qui, justement, impactent sur le comportement du lecteur. Le type de lecture, linéaire, non linéaire, non linéaire, c'est-à-dire hypertexte. Et là, on sait qu'on a des difficultés aussi à ce niveau-là. Mais c'est aussi, de l'autre côté, c'est jamais tout négatif, tout positif. C'est-à-dire qu'il y a aussi des avantages énormes aussi à l'usage de l'hypertexte. Mais je pense qu'il faut principalement, notamment lorsque les enfants n'ont pas la connaissance préalable à un contenu, il faut surtout adapter ces hypertextes par rapport à cette connaissance. Et puis, dernier point, la source d'information, c'est-à-dire le fait que avec ces nouvelles technologies, en fait, on peut présenter beaucoup, beaucoup d'informations de nature différente. C'est ce qu'on appelle la multimodalité en psychologie. C'est-à-dire que... mais la question, c'est est-ce que comme dit le proverbe, le mieux est l'ennemi du bien. Est-ce que, là aussi, le fait de présenter à la fois des informations avec du son, de la vidéo, du texte, des graphiques, des images, etc., c'est très riche. Ça donne des outils qui sont vraiment incomparables, mais est-ce que c'est toujours nécessaire? C'est ça, c'est une question que l'on se pose, et on s'est aperçu, en fait, il y a eu des expériences qui montrent que ce n'est pas toujours nécessaire, c'est même quelquefois négatif, quand la redondance des informations entre la vidéo, le texte, etc. est trop importante. Alors, pour vraiment être très schématique, sur le processus de lecture et pour bien comprendre en fait la méthode d'évaluation que l'on a mise au point, je voudrais simplement représenter vraiment de manière très très schématique ce que l'on sait sur les processus cognitifs en lecture. On sait qu'au départ on a une sorte de... Vous voyez ici, on ne reconnaît pas le texte parce qu'on a un traitement visuel d'abord de très très bas niveau du texte. Et ce traitement visuel, on sait que simplement on déplace ses yeux. Alors, j'ai pas de démo, j'ai pas pu la faire aujourd'hui. On déplace ses yeux simplement sur la ligne de texte en fonction de ces traces-là. Hein, ce sont que des traces. C'est pour ça qu'on reconnaît pas les mots. Et à partir de là, et bien sûr, il va y avoir des mots. Et sur ces traces-là qui permettent de guider les mouvements des yeux, vont s'appliquer donc différents types de processus à différents niveaux de traitement. Le premier niveau de traitement, c'est le mot. Imaginez que je regarde mon mot, bon, je vais bien sûr traiter, c'est ce qu'on appelle l'accès au lexique, l'accès à la définition mentale du mot. Et donc ce mot-là, je le connais parce que je parle français, parce qu'effectivement on partage un certain nombre de connaissances. Mais ce n'est pas suffisant. Dans la lecture, ce n'est pas simplement un ensemble de fixations qui sont décorrélées les unes par rapport aux autres, ce sont des fixations qui vont se lier. C'est d'ailleurs le principe même de la compréhension en lecture, c'est le fait de tisser des liens entre les différents niveaux. Alors, le mot va être lié à la phrase par rapport au paragraphe précédent, tout ça c'est un tissage, encore une fois, et ça c'est le tissage qu'on appelle du texte, mais ça ne serait pas suffisant si on ne rajoutait pas des connaissances en mémoire. On a parlé de MLT, c'est-à-dire de mémoire à long terme, c'est effectivement de la mémoire à long terme, c'est-à-dire des connaissances mémorisées depuis sa naissance, que l'on va rajouter sur ce sens de texte. Alors pour essayer d'étudier tous ces niveaux cognitifs, tous ces niveaux de traitement, du bas niveau jusqu'au haut niveau, on a tendance à schématiser les étapes de traitement en trois niveaux dans la lecture. Le premier niveau, c'est la détection des lettres. C'est ce qui a paru tout à l'heure lorsque les traces des mots apparaissaient sur la diapositive. Et c'est le niveau de la visibilité. Le deuxième niveau, c'est l'identification des mots. C'est ce qu'on appelle la discriminabilité. Ça, c'est un terme plus ergonomique. Et le dernier niveau, c'est la compréhension. Vous voyez, ça part du bas niveau détecté jusqu'au haut niveau compréhension. Alors, voilà l'outil. L'outil, c'était la construction donc d'une plateforme de test de lecture électronique. Alors, je parle de lecture électronique dans le sens que, bien sûr, les tests de lecture, c'est vieux comme la lecture presque. C'est-à-dire que on en connaît beaucoup. Il y a différentes sortes en fonction de différentes théories, etc. Mais ce dont on s'aperçoit maintenant, ce qui existe, c'est que le plus possible, les gens lisent sur des supports électroniques et non plus sur des supports papier, des supports rigides. Et ce qui manque, ce que je n'ai jamais vu en tout cas à ma connaissance, ce sont des tests qui permettent d'évaluer cette lecture électronique. Or, pour autant, on est tous, en utilisant des smartphones, utilisant des tablettes, utilisant des écrans. Ce sont des supports qui sont complètement différents. Le contenu, bien sûr, ne change pas. Mais est-ce que ce support-là, est-ce que les supports ne vont pas induire, justement, des processus différents? Alors, on a évalué donc la lecture électronique sur trois dimensions. Les trois dimensions précédentes, visibilité, lisibilité, ça correspond à la discriminabilité et la compréhension. Et on a pris en compte, en fait, différentes variables. On a fait des mesures de tout ça. Et on a mis au point ce test de manière à pouvoir l'évaluer sur deux types de lecteurs, les lecteurs qui rentraient en apprentissage au cours préparatoire et les lecteurs qui étaient au début du cycle secondaire, c'est-à-dire en sixième. Alors voilà, donc vous avez en bas effectivement les paramètres de l'expérience. Alors quels sont ces tests ? La visibilité, c'était vraiment quelque chose de très simple. La visibilité, c'est est-ce qu'on arrive à détecter un stimulus lumineux, regardez ici, qui apparaît sur l'écran. On répond oui-non, donc on a ensuite une matrice de réponse oui-non, et puis on va analyser ça. Et ça permet notamment de mesurer ce qu'on appelle un seuil de visibilité, donc on a une valeur numérique. La lisibilité, c'était quelque chose de beaucoup plus, là c'est au niveau lexical, c'est au niveau du mot. Et là, l'idée, c'est d'essayer de repérer une lettre parmi un ensemble de d'autres lettres. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des séquences d'autres lettres qui peuvent partager ou non des traits communs avec les autres lettres. Et là, ils doivent répondre là aussi très rapidement s'ils ont vu cette lettre-là. Là, c'était la lettre O. Alors, il y avait une séquence, bien sûr, c'est des séquences répétées. Et on mesure ici, là, un indice de discriminabilité, un indice de lisibilité. Et puis, on a la compréhension. Et la compréhension, c'était des tests classiques de compréhension. On a des textes avec des figures, sans figures, avec à la fois donc des textes, bien sûr, qui sont adaptés au cours préparatoire ou en sixième. Et on va mesurer le taux de compréhension. Alors, le but de... Voilà les résultats. Bon, je vais passer peut-être là-dessus. Les résultats sont des résultats sur le seuil de détection, le seuil de discriminabilité, donc de lisibilité, sur la compréhension. On s'aperçoit qu'on a des différences, ici notamment, on a des différences sur la détection. Plus on va vers le haut de l'axe des Y, plus la détection est grande. Donc on a des différences, par exemple, au niveau du cours préparatoire. On a une meilleure détectabilité ou détection du signal lumineux sur les TNI pour les cours préparatoires que sur les collèges. Bien sûr, vous allez me dire, ça dépend peut-être des tableaux, mais là, tous les tableaux avaient été contrôlés dans le sens qu'on mesurait, on avait ce qu'on appelle ça, on appelle ça en statistique une covariable, donc on a analysé indépendamment du matériel, évidemment, ces détections. Donc ça, c'est des raisons, les raisons, on ne les connaît pas vraiment, mais il faut expliquer cela. Après, sur l'identification des mots, on n'avait rien sur le TNI, mais on avait par contre... des différences sur l'ordinateur. Alors, ce que j'ai été très rapide, mais effectivement, on comparait aussi le TNI par rapport à l'écran d'ordinateur, puisqu'on a aussi dans les classes des écrans d'ordinateur. Et sur la compréhension, on avait l'inverse. Donc, la compréhension, plus ça monte, là aussi, mieux les élèves comprennent. Une moins bonne compréhension pour les TNI sur les CP, par contre, c'était l'inverse sur les collèges. Voilà, ça, c'est les résultats obtenus. Ensuite, les recommandations. Donc, je vais passer là-dessus parce que vous verrez. Vous pourrez en fait contacter le rapport qui est en ligne sur le site EduSCOL. Les recommandations en visibilité, en lisibilité, les recommandations en compréhension. Et je voudrais juste simplement arriver à cette diapo pour vous dire qu'on continue le travail. L'idée, encore une fois, c'est d'essayer de construire cette méthode de test de lecture électronique de manière standardisée, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement valide pour les TNI, qu'il soit valide aussi pour les tablettes, qu'il soit valide pour les écrans, etc. Ça n'existe pas. Et surtout, ça correspond également aux objectifs européens, vous savez, de PISA, c'est-à-dire ces programmes d'évaluation des acquis des élèves, qui demandent effectivement des méthodes d'évaluation de la lecture. Alors, PISA ne parle pas que de lecture, parle de mathématiques également, mais ça correspond également aussi à ça. L'objectif à terme est d'essayer d'obtenir, c'est ce qu'on s'attelle à cela en ce moment, d'obtenir un quotient de lecture, c'est-à-dire une mesure qui puisse comparer notamment les supports, et pas simplement les supports, mais aussi les classes entre elles. Voilà. Voilà, terminé.
Merci. Nous passons la parole maintenant à Philippe Dumas, qui est professeur émérite des universités, à l'Université du Sud à Toulon, pour une intervention intitulée « Recherche en pédagogie numérique, l'interactivité pédagogique, comment évaluer l'impact des ressources numériques dites interactives ».
Bien, merci. Je suis particulièrement heureux d'être dans le cadre de ce séminaire Sankore, parce que ce qu'on fait ici correspond tout à fait à mon approche éthique d'un service public de l'éducation. Et je vais démarrer en réfléchissant sur un certain nombre de mots qui m'ont été proposés par les deux complices Albert-Claude Benamou et Gilles Braun, qu'on a retrouvé dans d'autres occasions. Interactivité, évaluer, ressources numériques et ce dit interactive que j'ai trouvé génial. Donc, m'ayant donné ce petit travail, j'ai fait mon devoir et j'ai organisé ce petit exposé justement autour des quatre points importants du thème qui m'avait été proposé. Alors, premier sujet de réflexion, c'est le terme interactivité. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Madelin dire qu'il faisait un catalogue des interactivités. Et je pense qu'on a, on a quand même un problème de vocabulaire. Et je vous propose de dépasser un conflit qui se traduit dans la littérature entre ces notions d'interaction et d'interactivité. Depuis qu'on peut parler d'interaction humaine par la communication, notamment avec le grand marqueur que représente l'école de Palo Alto, jusqu'à un texte assez récent de Serge Bouchardon qui s'occupe de la lecture et qui, j'ai vu écrit quelque chose d'intéressant, c'est qu'on ne pouvait pas arriver à une théorie de l'interactivité. Alors, je vous propose justement de considérer que l'interactivité est une propriété émergente au sens de l'émergence dans des systèmes complexes tels que l'a théorisé toute l'école von Bertalanffy jusqu'à Edgar Morin de la théorie des systèmes socio-techniques et des systèmes humains. Ce qui est intéressant dans cette citation, que évidemment je ne vais pas vous faire lire, c'est que cette notion d'émergence est reprise même actuellement dans des encyclopédies tout publiques telles que Wikipédia. Donc, de la complicité naît l'émergence, et l'interactivité, pour moi, c'est quelque chose donc que je vous propose, est une propriété émergente d'un dispositif socio-technique d'information-communication, dispositif qui est en particulier concevable dans un cadre pédagogique. Donc, l'interactivité n'est pas la propriété d'un objet. Je ne veux pas dire cet ordinateur est interactif, ce tableau est interactif, etc. L'interactivité est la propriété d'une situation dans laquelle sont associés un objet et des usagers. Là, on va avoir évidemment le trio apprenant, enseignant et support technique qui, s'il est bien utilisé, va provoquer de l'interactivité avec tout ce que ça a de positif. Donc l'interactivité est une émergence comme émerge de la mer quelque chose qui est divinement différent, qui est notre Vénus. Donc l'interactivité et évaluer l'interactivité n'est pas quelque chose qui s'applique à un objet isolé, c'est un objet qui est dans un triangle, qui est le triangle pédagogique, comme on a dit. Alors, deuxième aspect, qu'est-ce que sont les ressources que je vais appeler à potentiel interactif, puisque en elles-mêmes, elles ne sont pas interactives, mais elles peuvent donner lieu à interactivité. Alors, plusieurs typologies sont possibles. Finalement, je vais m'arrêter, comme vous en doutez, à la dernière, parce qu'elle a un intérêt assez réel et assez provocant, je dirais, pour un public d'enseignants. J'ai observé dans les années 90, alors que nous commencions à mettre des systèmes, des dispositifs d'enseignement en ligne et que nous créions ce que l'on appelle maintenant des environnements numériques de travail, c'est-à-dire des plateformes dans lesquelles on voulait mettre tout ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire le courriel, le chat, etc. Et puis, à l'usage, on s'est aperçu que les étudiants n'utilisaient ces dispositifs que de façon marginale. Quand ils avaient envie de communiquer entre eux, évidemment, mais de communiquer dans un travail collaboratif avec le prof, ils passaient par d'autres systèmes qui étaient en dehors de l'ENT. D'où cette typologie un peu rapide, mais enfin, vous connaissez tous. Ce qui est important de se souvenir, c'est que dans l'utilisation des ressources interactives, il n'y a pas que celles que vous avez conçues dans votre système, le tableau numérique, la plateforme, la bibliothèque, etc. Il y a tout un monde autour qui inclut donc les réseaux sociaux, les tablettes de lecture, les jeux vidéo, et je reviendrai là-dessus. Mais comme il faut que j'aille vite, je vais tout de suite aller vers ce qui va être la base de la notion d'évaluation, c'est qu'est-ce qu'on recherche dans le dispositif donc pédagogique, interactif, c'est l'augmentation de la confiance en soi, de l'autonomie, de la mémorisation, la créativité, la curiosité, les modifications du comportement, l'acquisition des comportements de coopération qui, bien justement, tablant sur le fait qu'ils sont probablement câblés dans notre nature animale, mais ils sont largement détruits par la culture et il faut les reconstituer par le biais de l'éducation. Et ce qu'on cherche à éviter, c'est tous les défauts que l'on connaît parce qu'on leur reproche en particulier aux réseaux sociaux. Quelque chose qui est absolument fondamental, c'est que l'évaluation de l'efficacité passe toujours par un rapport avec l'enseignant. Alors, je vais vous proposer une grille de l'évaluation. Alors, tout le monde veut évaluer, on veut évaluer, le monde nous le dit, tous les jours nous le disent, et vous-même qui êtes dans l'éducation nationale, vous savez qu'il y a maintenant évaluation partout. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a une culture de l'évaluation qui est négative. C'est la culture traditionnelle française, évaluation-sanction, évaluation-punition, évaluation, tu ne sais pas, faut que tu fasses ça. La culture de l'évaluation qui a imprégné le monde anglo-saxon, et en particulier les pays du nord de l'Europe, est une culture de l'évaluation positive. Donc, ce que je vous demande, c'est d'abandonner l'évaluation down pour avoir une évaluation up. Et qu'est-ce qui peut nous conduire à cette forme d'évaluation positive? Eh bien, on va chercher l'impact des ressources et je vous propose deux dimensions pour obtenir un petit outil à la fois de réflexion et de positionnement. Par rapport au processus pédagogique, de prendre la dimension temporelle qui va distinguer une évaluation plutôt formative ou plutôt sommative et par rapport à l'apprenant, une évaluation faite par lui-même par rapport à une évaluation faite par l'extérieur. Quand on parle d'évaluation, 90% des évaluations dont on parle sont des évaluations où mentalement on pense que c'est de l'extérieur. Or, tout étudiant, toute personne dans son comportement est continuellement en train de s'évaluer. Ce qui m'intéresse, c'est de voir l'interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, moi je vous propose d'avoir ce petit schéma qui est évidemment qu'un outil simplificateur, mais qui permet de fixer les idées. Avec ces quatre cadrans, l'auto-évaluation formative, ce que j'appellerais l'exo-évaluation formative, l'auto-évaluation sommative, l'exo-évaluation sommative, et qui aboutit par exemple à des questions du style où j'en suis. Qu'est-ce que je fais, comment je suis par rapport à mon objectif, mon programme. Si je suis à l'extérieur, où en est-il? Et si je veux faire des bilans, c'est le sommatif, si moi je me pose la question, bon ben maintenant avec ce que je sais, qu'est-ce que je peux faire? Ou si je suis de l'extérieur, si je suis dans l'institution, que faut-il faire? Donc, c'est ce petit cadran. Je voudrais vous le faire voir comment il dépasse le cadre de l'évaluation de l'outil pour poser des questions beaucoup plus larges. Et je vais prendre un petit exemple qui est justement borderline. C'est celui des serious games ou des jeux sérieux qui commencent à être pris en considération, à être pris au sérieux dans le domaine de l'éducation. Alors, voilà le concentré qui a été écrit par un de nos collègues Étienne Armand Amato. Ce qui est important, c'est que tous ces objets ont pour objectif de modifier à terme l'état ou les capacités du participant, non seulement dans la partie jouée, mais surtout dans un autre contexte, c'est-à-dire hors jeu. Le propre du jeu sérieux est que ses effets doivent se manifester au-delà de l'activité ludique, c'est-à-dire ultérieurement un contexte non ludique jugé en cela sérieux. C'est ce qui fait donc que vous voyez que l'évaluation d'un wargame ou d'un jeu en réseau ne peut pas se faire autrement que dans une stratégie pédagogique plus large. Je mettrai à la fin, et si ce diaporama est sur le site, vous aurez une bibliographie. Je vais terminer. Pédagogie numérique, ces mots. Ressources numériques, interaction, évaluation, représentent tous une révolution culturelle dans l'enseignement, dans l'être de l'enseignant dans son rapport à l'apprenant et dans la relation au savoir. Donc, nous sommes bons pour une nouvelle révolution. Merci.
Merci. Eh bien, nous continuons avec Serge Poulajus, qui est directeur de Société Éducation et Territoire. On peut dire aussi cofondateur du Café Pédagogique et expert de longue date. Serge, c'est à toi sur un titre un peu long, Base d'ergonomie pour la création des ressources numériques pour le TNI, influence de la perception, de l'image, du son, de la voix, de l'enseignant, du rythme sur la compréhension et la mémorisation.
Très long, mais la présentation va être brève. Alors, le contexte de cette intervention, c'est un travail que nous avons fait pour Sankore avec Nathalie Colombier, et on nous a demandé de créer un guide pour la création de ressources pédagogiques numériques pour le TNI à destination des enseignants créateurs. Donc l'idée, c'était de voir ce que dans les résultats de ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive, en particulier autour des travaux de compilation déjà réalisés par un chercheur français, Eric Jamet, de voir un peu comment on pouvait les traduire, les vulgariser en quelque sorte, pour les mettre à disposition des enseignants qui sont des créateurs de ressources. Voilà, donc ça se traduit sous forme de rappels théoriques les plus succincts possibles des acquis de l'ergonomie cognitive, et puis des conseils pratiques. Et on n'oublie pas dans notre présentation de référer la production de ces ressources pédagogiques numériques au contexte d'usage, et en particulier, là, il s'agissait plutôt du TNU et plutôt des usages de classe. Voilà. Juste pour l'intérêt de cette démarche-là, c'est que les enseignants qui sont créateurs de ressources depuis toujours, mais qui deviennent des créateurs de ressources numériques dès lors qu'ils utilisent des outils de présentation numérique, sont néanmoins des amateurs en matière de production de ressources multimédia. On oppose cet amateurisme-là des enseignants au professionnalisme des éditeurs qui font, eux, des produits diffusés. Mais il se trouve que les pratiques de mutualisation dont on sait qu'elles se sont développées, et en particulier elles sont au cœur de la dynamique de Sankore, créent une sorte de zone intermédiaire dans laquelle des amateurs produisent des ressources qui ne sont pas destinées à eux seuls et au contexte de leur classe et à leurs seuls élèves, ce qui en garantit en quelque sorte une forme d'efficacité parce qu'ils sont là pour pallier aux défauts éventuels de leurs ressources. Mais dans cette zone intermédiaire qui se développe de produits qui sont des produits d'amateurs mais qui ont au fond besoin de se professionnaliser, c'est pas le bon mot, mais en tout cas peut-être de se discipliner, ou en tout cas de se cultiver sur le plan justement de ce que c'est qu'une bonne ressource, ou ce que peut être une bonne ressource éducative multimédia, à quelles conditions elle peut être efficace sur le plan cognitif. Alors voilà, c'est au fond le gonflement de cette zone qui justifie le petit travail que nous avons fait vite et qui est très perfectible, et je vous en présente ici un peu les résultats. Et juste pour dire au fond ce qui fonderait l'intérêt supplémentaire d'un point de vue plus théorique de cette démarche-là, au fond la formule la plus brève, je l'emprunte à Monique Linard, qui est une chercheuse que certains d'entre vous connaissent bien, qui était une chercheuse en sciences de l'éducation, prof de langue, et qui avait fait sa thèse dans les années 70 sur le thème de l'otoscopie. C'est-à-dire cette idée qu'on va enregistrer un élève, on va dans son action l'enregistrer soit sous forme audiovisuelle, soit sous forme de bande sonore. Et puis cet enregistrement et ce décalage provoqué par l'enregistrement de soi-même a des vertus pédagogiques auxquelles Monique Linard s'était particulièrement intéressée. Et puis quand elle découvre l'ordinateur en 1981 et son image interactive manipulable, c'est comme ça qu'elle qualifie au fond l'apport principal sur le plan éducatif de l'informatique, elle dit « Enfin, voilà l'image pour apprendre ». Et ce cri-là, au fond, cette intuition dit ceci. Et pourquoi ? Alors, sur quoi elle le fonde elle-même ? Elle le fonde sur... Elle reconnaît l'image interactive manipulable, dans le fait qu'il y a un feedback, une conservation, au fond, des actions de l'utilisateur sur l'écran. Elle reconnaît, là, la boucle d'interaction, de rétroaction de Piaget, qui est celle de la perception, l'action... voir agir et voir se voir agir et voir les résultats de son action. Et pour Piaget, c'est la base de l'intelligence. Et donc, évidemment, pour Monique Linard, elle se dit, nous tenons là, au fond, un outil majeur, un outil quasi naturel, au fond, de réalisation de ces interactions. Alors, et d'une certaine façon, on va dire, l'histoire confirme, au fond, cette hypothèse-là, et confirme aussi une autre intuition de Monique Linard, c'est que ça ne va pas être facile à mettre en œuvre. Il y faudra des conditions, et il faut toutes sortes de conditions dont on peut dire qu'elles sont difficiles à remplir. Mais parmi les plus faciles à remplir, il y a des conditions relatives à l'ergonomie, c'est-à-dire il y a quelques règles de présentation de l'image qui va donner à l'image une capacité, une vertu en tout cas en termes de mémorisation et de compréhension, évidemment qu'il faut prendre en compte. Donc je vais juste dire... le multimédia, alors on sait depuis longtemps que l'image a un effet positif sur la mémorisation et qu'il a un effet positif sur la compréhension. On le savait déjà avant l'ordinateur, avant l'informatique. Mais ce qu'on sait aussi avec l'ordinateur, et ça a été démontré 1000 fois, que ça peut faciliter la compréhension et ça peut faire aussi exactement l'inverse, n'est-ce pas? Et si on décompose un peu ce qui fait qu'on traite, on est capable de traiter et de profiter d'un document qui est montré, dans l'ordre, on peut dire en haut, il faut reconnaître ce qui est montré, il faut reconnaître les objets, il faut reconnaître les mots, il faut reconnaître le lexique, il faut comprendre les éléments implicites, c'est-à-dire il y a des choses qui ne sont pas là, mais qui sont relatives notamment au contexte et qu'il faut avoir intégré évidemment pour tirer profit du document. Il faut bien sûr activer des connaissances antérieures, la plupart du temps c'est une condition nécessaire, et puis il faut sélectionner les éléments pertinents, ça va de soi mais pas toujours, par exemple ici dans mon dessin les couleurs ne sont pas pertinentes, on va dire tiens pourquoi les objets c'est vert, est-ce que la forme ronde des trucs a un intérêt, non, et ça spontanément on va dire j'imagine tous les gens de cette salle éliminent les éléments non pertinents. Mais c'est vrai que c'est jamais évident, et en tout cas, quand on conçoit un document multimédia, il faut se poser la question de la prise en compte de ces éléments non pertinents par celui qui l'utilise. Alors, juste, je vais vite maintenant pour dire, parmi les éléments qu'on a mis un peu dans, qu'on a proposé à nos lecteurs sur la question théorique un peu d'ergonomie cognitive, celle de Richard Mayer, qui est au fond le grand ancêtre américain de ces études-là, qui met en avant, alors si on regarde dans l'ordre un peu l'effet de modalité, c'est, il montre qu'il y a un effet positif, alors les effets qui agissent sur la compréhension, qui agissent positivement bien sûr sur la compréhension, l'effet de modalité, ça veut dire d'avoir à la fois de l'image et du texte, les effets de contiguïté temporelle, c'est qu'il faut que ces présentations multimodales soient voisines sur le plan spatial, mais aussi sur le plan temporel, les effets multimédia qui redoublent l'effet de modalité. De l'autre côté, l'effet de cohérence, ça veut dire qu'il faut diminuer le plus possible les détails non pertinents. Alors, on ne peut pas les éliminer tous, parce qu'il faut bien que les choses aient une forme, etc. Mais en tout cas, il y a un travail à faire sur la cohérence, un effort à faire sur la redondance. Il faut de la redondance parce qu'elle est naturelle, il faut des rappels, il faut des messages de répétition. Il faut aussi des effets de signalement, c'est-à-dire qu'il faut attirer l'attention de l'utilisateur sur certains éléments du document et les mettre en relief, les mettre en évidence parce qu'ils ont une importance particulière par rapport aux propos. Et puis enfin, l'effet des différences individuelles, c'est d'être capable de tenir compte de quel utilisateur on a. Est-ce qu'on a un utilisateur débutant? Est-ce que c'est un utilisateur qui utilise la ressource pour la première fois ou pour la centième fois? Et à ce moment-là, évidemment, il faut être capable de ça. Un autre apport synthétique, on va dire, de la recherche, c'est celle de Bastien Escapin, qui ont au fond autour des sites web mais globalement des ressources multimédia interactives dégagé un certain nombre de critères ergonomiques dans lesquels on va retrouver les idées déjà dites, la question du guidage. Il faut face à une ressource savoir qu'est-ce que je dois faire et donc il faut qu'il y ait une incitation, il faut que les items soient regroupés, il faut des feedbacks immédiats, il faut de la lisibilité. La charge de travail, c'est cette idée évidemment que le document multimédia peut avoir un effet pervers et c'est le plus important de charger, d'encombrer l'esprit de l'utilisateur par des choses qui sont secondaires et qui au fond lui empêchent de comprendre et de mémoriser ce qu'il doit normalement comprendre, enfin en tout cas ce qui correspond à l'objectif de la ressource, donc la brièveté, la concision, la densité. Les contrôles explicites, c'est important que l'utilisateur ne soit pas, que ça soit lui qui utilise la ressource et pas que lui-même soit utilisé par la ressource en quelque sorte, qu'il garde le contrôle, que ça soit un peu dans le même ordre d'idées adaptable. La question des erreurs, alors pas des erreurs au sens pédagogique, qui sont évidemment une source d'apprentissage majeure, mais les erreurs au fond d'utilisation de la ressource. Évidemment, il faut les limiter, il faut les protéger l'utilisateur contre ça, il faut, quand il y a une erreur, il faut renvoyer des feedbacks, et voilà, j'ai fini, 2 minutes, c'est presque bon. Le reste, voilà, l'homogénéité, la cohérence, on a déjà vu, la signifiance des codes de nomination, même chose, si on a un outil qui a un rôle de gomme, eh ben, il est évidemment judicieux de lui donner une forme de gomme, par exemple, ça permettra, ou plutôt que d'autres choses, ça facilitera la compréhension. Et donc, juste pour donner des 3 exemples, on a au fond développé un petit peu... Alors c'est des conseils positifs, c'est-à-dire qu'on explique un peu qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi il faut tenir compte quand on met une illustration dans un document, plutôt que les erreurs à éviter. C'est vrai que les erreurs à éviter c'est plus amusant, mais en même temps ça dit ce qu'il ne faut pas faire, mais ça ne dit pas ce qu'il faut faire. Alors c'est intéressant de souligner que la recherche de ce point de vue-là est absolument catégorique, il faut accompagner les illustrations d'explications, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales. Mais par contre, évidemment, les explications, les légendes, les explications doivent être adaptées au public, c'est une évidence. Une autre chose qui est peut-être moins évidente, c'est que les explications, comme le troisième schéma, doivent intégrer le plus possible l'illustration et pas séparer d'elle. Sur la question de la sonorisation, L'apport d'un commentaire audio, c'est une chose toujours positive. Doubler une explication écrite par une explication orale, ça dépend. Des fois oui, des fois non, on donne quelques conditions. La lecture d'un texte long, non, jamais. Ça n'est pas efficace pour ce genre de ressources. Et puis, on a aussi présenté cette idée que la vidéo, alors j'ai mis ici celle de la Khan Academy, qui est, au fond, qui sont une collection de vidéos de maths très célèbres, et dont on dit qu'elles sont très utilisées et qu'elles sont d'une très grande efficacité sur le plan de la compréhension. Et c'est vrai, en quelque sorte, on dit, au fond, on a des images, on a du son, et puis c'est contrôlable. Et c'est contrôlable de façon très simple, j'arrête. Au fond, c'est un peu comme un prof particulier qu'on peut interrompre. Voilà. On peut l'interrompre, le relancer, on peut revenir en arrière, etc. Et donc ça a beaucoup de succès dans ce domaine-là, évidemment, je ne ferai pas de généralisation, mais en tout cas on peut faire ce constat que ça fonctionne assez bien ce genre de ressources. Mais évidemment c'est un professeur à qui on ne pose pas des questions, donc la suite, c'est les interactions. La recommandation pour l'interactivité, là, j'ai plus que 30 secondes, donc on ne va pas en parler. Juste pour dire qu'au fond, la question pour l'ergonomie, c'est l'ergonomie des interfaces, qui est un domaine qui est très, très visité, et puis au fond dans lequel on peut se contenter de reprendre les recommandations précédentes pour rappeler que avoir le souci du guidage, avoir le souci de réduire la charge cognitive ou du moins de l'augmenter au minimum, d'avoir évidemment le souci du contrôle, l'adaptation, de réduire le risque d'erreur, l'homogénéité, la compatibilité, voilà, on voit tout ça, ces choses, et ces critères-là sont au fond assez bien décrits dans les règles d'ergonomie des interfaces. Voilà, merci.
Merci. Le prochain intervenant est Éric Bruyard. Il est professeur des universités à l'École normale supérieure de Cachan. Son intervention s'intitule « Quelles nouvelles compétences pour les professeurs, les élèves ?»
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Alors juste pour ajouter, Steph est aussi un laboratoire associé à l'IFE. Il sait très bien que l'IFE vienne un peu aussi sur Paris et qu'on échange aussi en région parisienne. Voilà, qu'est-ce qu'on fait à Steph ? Très vite, on travaille notamment sur les questions de didactique, de l'informatique et des progiciels. On a beaucoup travaillé sur les réseaux d'enseignants, c'est-à-dire sur la manière dont les enseignants conçoivent et partagent des ressources, aussi bien en France que dans d'autres pays. Et là, je vais me concentrer plutôt sur l'utilisation des TIC en éducation, avec pour objectif de ce qu'on cherche à nous à faire, c'est d'essayer de comprendre les dynamiques qui existent au sein des établissements scolaires. Donc on ne fait pas une recherche d'accompagnement, de vendeurs, de dispositif, mais plutôt d'essayer d'aller voir dans les établissements scolaires comment les choses sont mises en place, qu'est-ce qui se passe et comment les gens finalement s'arrangent dans leur métier pour utiliser tout ça. Alors on a travaillé sur les ENT, on travaille sur les manuels numériques, on a travaillé sur les tablettes. Alors juste, je vais me concentrer aujourd'hui sur les questions de manuels numériques, sur des exemples qui sont des ressources numériques particulières, en prenant le cas des l'expérimentation nationale qui s'appelait Manuel numérique via l'ENT. Alors ça, j'ai repris ça de ce qu'a mis en ligne le ministère sur le site EDUSCOL sur finalement l'évaluation de la première année d'utilisation de ces manuels numériques. En gros, ils se sont aperçus que les manuels étaient essentiellement utilisés en classe, alors que ça devait être pour l'ENT utilisé à la maison, mais ils ont été très peu utilisés en dehors de la classe, et que finalement, cette expérimentation qui était centrée sur l'utilisation de manuels pour les élèves, faisant le lien entre ce qui se passe en classe et à la maison, ont surtout été utilisés en classe avec des tableaux numériques interactifs. Là, ce qu'ils ont mis, des tableaux blancs interactifs. Que les enseignants apprécient un peu ces manuels, les enregistrements multimédia, mais constatent que le plus souvent, ce sont des manuels numérisés plus que numériques et qu'ils attendent encore des choses un peu plus interactives. Voilà ce qu'on peut trouver dans le cadre de l'expérimentation nationale. Alors, juste pour rappeler, c'est pas nouveau tout ça, les recherches sur les manuels numériques ou électroniques, ça date d'un certain temps. J'ai croisé Yves Clavier. On avait démarré une recherche il y a 15 ans, 16 ans, avec Attier, avec Logis Sciences de la Cognition. 2 mois après le début du projet, Attier, qui était un éditeur scolaire indépendant, a été racheté. Ça a compliqué un peu les travaux avec eux. Deuxième exemple, que vous connaissez sûrement, c'est sur le cartable électronique, hein, Vivendi. En 2001, cette photo, ça représente des élèves. C'était devant la télévision coréenne, qui s'amusent à peser d'un côté les manuels scolaires, parce que c'est toujours le poids du cartable qui intervient, avec un dispositif de lecture qui était le manuel Vivendi. Et je vois Thierry Vulpilière, qui connaît très bien l'expérimentation, puisqu'il était aussi à l'origine. Donc, vous voyez, les acteurs sont toujours là, et je pense qu'on connaît ça depuis très longtemps. Alors, je vais maintenant me reconcentrer sur cette activité, sur cette expérimentation manuelle numérique via l'ENT, puisque l'Académie Chrétienne nous a demandé de faire une étude particulière dans 5 collèges dits expérimentaux. C'est ce qu'on fait très souvent à STEF, c'est-à-dire que si on veut avoir des retours sur le terrain, on ne peut pas faire ça à très grande échelle. On n'a absolument pas les moyens pour le faire. Ça n'est absolument pas possible. Donc, on choisit des lieux particuliers. Ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les lieux où les lieux les plus favorisés possibles. C'est-à-dire en se disant que si on a une idée sur ce qui se passe dans les lieux bien favorisés, où il y a toutes les conditions pour que ça marche, ça nous donne une idée de ce qui se passe quand il n'y a pas toutes les conditions favorables. Voilà, donc justement, ça permet de faire un petit peu d'inférence parce qu'on n'a pas les moyens de prendre 12 000 élèves partis en France pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc là, on a fait une étude très spécialisée dans 5 collèges de l'Académie de Créteil. On a fait une 30aine d'entretiens avec des enseignants, avec des équipes de pilotage, les principaux, et on a fait des questionnaires auprès d'élèves. On a eu plus de questionnaires, plus de 400 questionnaires d'élèves de 5e qui avaient bénéficié de l'opération en 6e. Alors, avant de donner les résultats, je vous explique juste notre cadre de référence. Finalement, l'unité d'étude qui nous semble le plus intéressante, c'est l'établissement scolaire. C'est de regarder ce qui se passe dans l'établissement, puisque c'est ce qui structure les choses, en tout cas en France. Alors, on reprend en gros dans ce cadre 7 points principaux qui expliquent la manière dont sont gérées les technologies et ce qui a une incidence directe sur les questions d'usage scolaire des technologies dans l'éducation. La première chose, c'est le leadership, c'est-à-dire finalement le pilotage au sein de l'établissement, du principal, de la gouvernance, de l'équipe de pilotage au niveau des technologies, des projets d'établissement, etc., etc. C'est toujours très intéressant de comprendre les phénomènes de leadership. Et sans leadership, les choses en général s'écroulent. Un des 5 collèges, il y a eu un changement de principal, les responsables de l'informatique ont démissionné, il n'y a rien eu pendant 6 mois. Deuxième, très importante, c'est les personnes ressources en informatique des établissements. Ils jouent un rôle tout à fait crucial dans le développement. Le troisième, c'est les questions d'assistance et de maintenance technique. En gros, est-ce que le service est maintenu tout le temps ou est-ce qu'il y a des ruptures de service? Le problème des financements est tout à fait important, surtout en France où finalement les financements sont partagés entre les collectivités locales territoriales, entre le rectorat, entre le ministère, et peut-être maintenant entre des pourvoyeurs privés. Les questions de politique générale concernant les TIC, c'est-à-dire la continuité de ces politiques, la lisibilité de ces politiques, est aussi un phénomène très très important. Et c'est très important de voir s'il y a des accords de politique entre les différents niveaux et de voir leur traduction au sein des établissements scolaires. Ensuite, c'est les questions de soutien donner aux enseignants dans les établissements scolaires, la formation interne, l'assistance, etc., etc., ce qui joue aussi un rôle tout à fait important. Et dernière chose, c'est la place de l'établissement dans son environnement, c'est-à-dire le lien avec les parents, le lien avec les associations locales, notamment pour la continuité entre le travail au sein de l'établissement et le travail hors établissement. Et aussi, finalement, dans les politiques d'innovation des établissements, l'importance de l'innovation vis-à-vis du public scolaire, notamment avec une diminution de la carte scolaire. Alors, les principaux résultats. On confirme d'abord essentiellement l'enquête qui a été menée par les consultants pour le ministère. Les manuels numériques ont été utilisés, mais les acteurs sont globalement déçus. Livraison tardive, il y a une lourdeur de fonctionnement, etc., etc., temps de chargement, etc. Et surtout, interactivité faible. Par contre, les enseignants, en général, apprécient beaucoup apprécient suffisamment les tableaux numériques interactifs. Ça permet d'améliorer ce qu'on appelle une pédagogie de la monstration, c'est-à-dire le fait de l'enseignant qui va montrer les choses aux élèves. Et c'est tout à fait dans cette continuité que les utilisations, ou ce que les gens nous en disent, s'installent. C'est en continuité directe avec le vidéoprojecteur. Ce n'est pas né du TNI, c'est une forme pédagogique qui est très en continuité. Et ce qui est intéressant pour le TNI, c'est aussi garder trace de certains gestes. On a un exemple tout à fait intéressant, par exemple, de faire une vidéo en boucle qui montre une mesure, notamment avec les outils de Césamat, et pour l'enseignant pouvoir après aller individuellement voir les élèves. Et le fait que quand les élèves sont perdus, peuvent revoir l'animation qui continue à circuler sur le tableau. Mais ça marche aussi bien TNI que vidéoprojecteur. L'activité essentielle des enseignants, on le sait bien, tu l'as rappelé tout à l'heure, d'autres l'ont rappelé, c'est qu'ils conçoivent des ressources tout le temps. Ils adaptent, ils ont toujours fait ça et ils continuent à le faire. Ils adaptent les ressources qui leur sont proposées à leur environnement particulier, à leurs élèves. Et ils ont besoin de l'adapter. Et ils ont besoin de composer leurs propres documents à partir des ressources disponibles. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on observe bien des continuités pédagogiques. Il n'y a pas de rupture. Finalement, ils reprennent dans les offres qui leur sont données, ce qui va renforcer les modifications qu'ils sont en train d'intégrer. Alors, l'une des choses, d'ailleurs, c'est que le manuel numérique est projeté et, en fait, ils s'aperçoivent que c'est le contraire de la personnalisation, ce que, finalement, est arrivé avec cette expérimentation, que le frontal est revenu en force. Je vous ai dit très clairement que, souvent, c'est super cool avec des TNI, mais assez peu interactif. C'est-à-dire, en gros, les gens s'attendaient dans le discours ambiant que ça augmente l'interactivité et la personnalisation. En fait, c'est le contraire qui s'est tout à fait installé. Et l'évaluation, la plupart du temps, est restée pour le moment inchangée parce que ça reste complexe à faire, puisque ça mélange plusieurs choses. Alors, sur la conception de ressources, c'est un phénomène extrêmement important, c'est-à-dire le fait que les enseignants ont besoin de ça et sont tout à fait intéressés à un développement qui leur permettra de mieux concevoir leurs ressources, mieux les adapter, etc. Plus de liberté, plus de facilité, plus de rapidité, etc. Mais aussi plus de lourdeur. Ils essayent des supports. Et ça permet effectivement de comprendre les cheminements, ça c'est l'enregistrement, ça c'est le fait d'enregistrer les processus, ça rend des notions visibles, etc., etc. Et en gros, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir fabriquer leur propre manuel. Ça, c'est une demande très forte d'enseignants. La difficulté, c'est que là, on est sur un problème de compétence. La plupart des enseignants ne sont pas suffisamment compétents pour élaborer leur propre manuel à partir de ressources éparses. Alors, il y a des compétences collectives. Tu as évoqué la différence entre le côté industriel et amateur. Finalement, dans ce qui est aperçu sur cette notion, encore 2 minutes seulement, en fait, ce qui marchait le mieux avec les TBI dans les manuels numériques, c'est ces amates, puisque ça marchait dans la continuité, aussi bien en classe qu'à l'extérieur de la classe. Donc, c'est plutôt le côté amateur qui a fonctionné plutôt que le côté professionnel. Malheureusement, les enseignants restent tout à fait consommateurs. Alors, juste quelques points critiques. Les TIC sont plus interactives, pédagogie frontale, etc. Juste, je voudrais souligner un point là-dessus, c'est que les PRI, c'est une plaque tournante, c'est-à-dire les professeurs, les personnels de ressources informatiques dans les établissements, c'est une grande faiblesse de notre système. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas là, les choses s'écroulent dans l'établissement, dans la majorité des cas. Et leur travail est encore assez peu reconnu. Donc, c'est une complexité et une fragilité très forte du système. Juste pour dire, ce qui explique bien tout ça, c'est ce qu'on connaît depuis très longtemps par Larry Cuban, notamment, c'est que ce que vont prendre les enseignants, c'est ce qui renforce leur contrôle sur les processus d'enseignement et d'apprentissage. C'est ce qu'on leur demande. Donc tout ce qui va dans cette direction va être tout à fait bien utilisé par les enseignants. Alors, juste, je voulais, 2 points, qualifier une recherche en Australie. En Australie, alors c'est mon collègue Mike Horsley, il y a un curriculum national qui vient d'être créé, c'est un pays fédéral, ils vont faire un curriculum, un programme scolaire national. Et ils ont essayé de reprendre l'ensemble des learning objects, c'est-à-dire des ressources numériques, qui étaient déjà dans les différents États fédéraux, pour faire un entrepôt de données complet. Et ils s'est demandé finalement en quoi et comment ces ressources étaient utilisées pour l'instant en Australie. Donc l'astuce qu'ils ont eue, c'est qu'ils regardent les registres de photocopies. C'est ça qu'ils font, c'est-à-dire finalement, quelles sont les photocopies qui sont faites par les enseignants et qu'est-ce qu'ils utilisent. Et le résultat principal, c'est ça. Ce que vous voyez en rouge, c'est le total des photocopies. Et ce que vous voyez en bleu tout en bas, c'est ce qui vient effectivement de NILS, c'est-à-dire des ressources gratuites qui viennent des États fédéraux. C'est-à-dire que l'entrepôt qu'ils vont faire, c'est à partir de ressources en bleu, c'est-à-dire quasiment pas utilisées à l'heure actuelle par les enseignants australiens. Ce que m'a dit d'ailleurs Mike Horsley, ce qu'on communique dans les colloques, il était très intéressé par ces amates, il a montré ça aux éditeurs australiens qui étaient tout à fait impressionnés et maintenant il s'intéresse à faire du sésamate-like en Australie. Voilà, juste les résultats principaux sont là. Une deuxième étude en Corée, parce que les gens aiment beaucoup la Corée comme le pays, finalement, le nirvana des pédagogies et l'utilisation du numérique. Un de mes collègues aussi a fait une étude assez extensive sur le primaire. Et le résultat important que je vous donne, c'est celui-là. C'est-à-dire que, finalement, les 2 types de disciplines principales, c'était la musique et l'anglais. Et les gens se sont dit, finalement, dommage, j'ai laissé en anglais, c'est que les principaux des écoles se sont dit on ne va pas payer de nouveau pour des ressources parce que les gens dépendent trop de ces ressources et c'est que du clic sur Internet. Et les enseignants, finalement, comme c'était plus payé par les principaux, les achètent eux-mêmes pour se débarrasser et laisser les élèves faire ça. Les enseignants deviennent dépendants des TIC quand ils n'ont pas les compétences suffisantes. Et c'est un vrai problème sur des compétences mal partagées. Voilà, je vous dis après, quel retour sur les élèves, parce qu'en fait, les manuels, vous le savez bien, en France, sont faits pour les enseignants, pas pour les élèves. Et on travaille beaucoup sur les indigènes numériques, c'est une notion de marketing, il faudrait revoir. Pour l'instant, c'est plutôt inquiétant, c'est-à-dire, les élèves ont des faibles compétences, ont peu de conceptualisation, ils ont un faible usage des technologies pour apprendre, ils l'utilisent pour toute autre chose que l'apprentissage, et l'institution scolaire ne leur fournit pas encore suffisamment d'éléments qui leur permettent d'acquérir des compétences partagées pour travailler avec ces technologies. Et très souvent, le monde scolaire est devenu un monde protégé, c'est-à-dire Internet à la maison, les parents ne savent pas le gérer, donc ils comptent sur l'établissement scolaire pour avoir un monde de bisounours, en fait, où les enfants seront en fait protégés de tous les dangers possibles, au lieu de les acclimater, au lieu de les former justement à faire face à l'ensemble de ces risques. Et le risque, c'est une notion très importante au niveau de l'école, mais ça supposerait un changement important dans les pédagogies. Alors juste pour dire, les questionnaires élèves, on en a fait, on est en cours de traitement parce qu'on a eu un problème de maladie. Juste pour vous dire qu'un des points intéressants qui était dans cette étude, et moi je ne savais pas, c'est que les deux tiers des élèves de 6e ou de 5e travaillent tout seuls à la maison, chez eux. Donc effectivement, pour l'instant, ça pose un gros problème, c'est-à-dire avec quelles ressources ils vont travailler. Pour l'instant, ils travaillent soit avec le manuel papier, soit avec les documents fournis par leurs enseignants. Bon, dans l'expérimentation, ils ont très peu travaillé avec les manuels numériques qui étaient finalement assez inopérants. En tout cas, ça, c'est une des questions tout à fait importantes qui devra être traitée. Alors, pour conclure, il me semble que c'est important de continuer ces enquêtes sur les dynamiques d'établissement. C'est ça qui peut finalement nous faire comprendre ce qui risque de se passer. Alors, selon des chercheurs américains, je crois qu'on a fait beaucoup de travail sur la prospective, certains disent que les systèmes scolaires existants sont dans l'incapacité d'intégrer de manière suffisante les technologies pour l'éducation. Et ils prédisent finalement un effondrement de notre modèle scolaire actuel. Donc ils prédisent des émergences de nouvelles formes de scolarisation. Alors peut-être qu'il faut s'y préparer parce que ça pose beaucoup de problèmes sociaux justement de changer ces formes de scolarisation. Et de formes qui seront finalement d'éducation, où il y aura beaucoup de formes d'éducation à distance et avec une forme plutôt supermarché où chacun aura l'éducation selon ses besoins. Ce n'est pas du tout le modèle qu'on a en France et dans beaucoup de pays européens, mais en tout cas, cette pression vis-à-vis de la personnalisation, de l'interactivité, etc., etc., le fait de donner à des élèves de manière très spécifique, je ne suis pas sûr que le système scolaire actuel, notre système, en supporte tout à fait les coûts. Et dans ces cas-là, c'est des tendances de rupture qui sont importantes. Pour conclure, je pense que finalement, il faut réfléchir sur l'ensemble de ce dispositif et penser que les ressources numériques, c'est un des éléments d'un système qui est en profonde mutation. Voilà. Merci.
Merci Eric Brouillard. Et donc sans transition, donc, je passe la parole à Gérard Vidal, professeur des universités à l'École normale supérieure de Lyon. Et là aussi, on a été invités, Bénédicte et moi, à vous inviter à resserrer encore un peu plus de temps, même si je sais bien que chacun est passé de 15 minutes à 10 minutes.
Voilà. Bien, je vais essayer de tenir dans les temps, pardon, c'est pas démarré. Donc la question qui m'était posée était de vous parler de normes, d'indexation des ressources et d'en arriver à vous parler de ce que peut être une grammaire numérique pour tous, y compris pour les enseignants. Je tiens à remercier d'abord la DGESCO et la DNA qui m'ont invité parce que c'est un risque important que de prendre quelqu'un qui va parler de normes dans un colloque, ça se fait très peu. En général, on est entre nous, des gens qui parlent uniquement des abréviations. Donc le premier point que je voudrais souligner, c'est justement cette notion de norme. Il faut impérativement que vous n'associez pas à norme une valeur négative ou constrictive ou oppressante. Norme, normalisation, normal, anormal, tout ça vous oubliez. On parle de standards qui sont les outils qui permettent de construire l'innovation, qui permettent de construire la liberté, qui permettent d'avancer. Alors ces normes, ce ne sont pas des affaires d'hurluberlu dans leur coin, comme je disais tout à l'heure. Ce ne sont pas non plus des comploteurs qui essayent d'empêcher le monde de tourner rond. Ce sont des gens passionnés qui essaient de trouver un consensus international sur des questions permettant de faire changer les choses. Et en fait, ce travail est un travail difficile. Et si parfois on imagine les normalisateurs dans des hôtels 4 étoiles en train de se rencontrer, de se taper sur le ventre, pas du tout. C'est souvent des soirées, voire des nuits de discussion, simplement pour mettre un mot et être certain que ce mot est compris par tout le monde. Le deuxième point embêtant sur les normes, c'est que mieux on travaille, meilleur est notre boulot, moins on en parle. Aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne de remettre en cause, le protocole HTTP. À tel point qu'aujourd'hui, vous ne tapez même plus HTTP, vous tapez directement l'adresse et ça marche. Et derrière, pourtant, il y a un sacré standard solide fait par le W3C. Le dernier point, c'est un point extrêmement positif vis-à-vis de Sankore, c'est que lors de notre dernière réunion à Shanghai, nous avons eu le plaisir d'accueillir pour la première fois un pays africain comme membre siégeant à la commission plénière de l'ISO, de la sous-commission 36 éducation. Et le fait que je vous parle de normes aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que dans cette relation nord-sud, on est en train de franchir un pas et de changer les choses. De façon tout à fait pédagogiquement répréhensible mais assumée, je vous ai mis un texte long que je ne vais pas vous lire. Le but était que vous puissiez en retenir la date, il date du 1er juin 2011, et la référence pour que éventuellement vous puissiez aller le lire. Ce texte est un texte qui a été émis après 2 ans de travaux par la Commission européenne, fait par des personnes qui n'étaient pas impliquées dans la normalisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le traiter d'être partiel. Et ce travail a conduit à dire que, d'une façon ou d'une autre, les normes étaient indispensables. Et en particulier, elles étaient indispensables dans l'éthique, dans la logique de communication et dans la logique d'interopérabilité, qui sont deux des grands termes importants dont on a déjà entendu parler ce matin à propos de Sankore. Donc ceci simplement pour dire que je ne traiterai pas de savoir si oui ou non il faut des normes, si c'est bien, si c'est pas bien. Je vous renvoie à ce texte européen qui est, je pense, très intéressant. Alors, l'indexation. Alors, je vais vous parler d'un sujet très précis qui est l'indexation des ressources et je ne rentrerai pas dans d'autres objets éducatifs qui peuvent être ou avoir été normalisés. L'indexation, je pense que c'est la clé de la qualité, de la flexibilité et de l'efficacité. Pour essayer de vous le démontrer, je vais reprendre un sujet que vous avez certainement vu traiter à de nombreuses reprises, qui est le dilemme du chercheur d'or que vivent les enseignants au quotidien. Un enseignant qui veut préparer un cours, il a besoin de trouver des informations, il a besoin de trouver des exemples, il a besoin de se faire une idée pour construire quelque chose. Et il cherche des pépites. Et en fait, où sont les pépites ? Il y a 2 solutions. Soit il cherche dans son environnement proche, on va caricaturer les ressources de son lycée, les ressources de son académie, le petit tas de sable qui est en haut là, il cherche là-dedans. Comme c'est des gens qui lui sont proches, il est sûr de trouver quelque chose. Mais il va toujours se demander, mais est-ce que je vais trouver une pépite suffisamment grosse ? Et est-ce que si je m'attaque carrément à tout le désert, je ne vais pas trouver des pépites encore plus grosses, encore meilleures ? Et en fait, on se dit que pour contourner ce dilemme, la meilleure façon, c'est plutôt que d'envoyer le chercheur d'or avec un tamis dans le désert, on va lui donner une carte de l'endroit où se trouvent les gisements. Et en fait, quand on parle d'indexation, c'est exactement ça. Dans l'indexation, ce qu'on essaie de faire, ce sont des listes qui recensent, qui décrivent les gisements de ressources et leur contenu. À partir du moment où vous disposez d'une telle liste, vous n'avez pas besoin de courir le désert, vous savez où aller. Vous avez les méthodes pour trouver, puisque la liste vous décrit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut quand même faire très attention, parce que si vous prenez des listes qui sont faites par 20 personnes différentes, et si ces listes ne peuvent pas communiquer les unes avec les autres, vous retombez dans le dilemme, puisque vous avez des morceaux complètement épars. Donc on est vraiment dans la logique où, si on veut de l'interopérabilité, on a besoin d'écrire des normes, c'est-à-dire d'avoir des règles que l'on partage en commun pour pouvoir mieux travailler. Donc, cette première étape, c'était simplement pour essayer de vous dire c'est important d'essayer d'avoir des normes pour réussir à classer nos ressources, à les recenser. En fait, trouver les ressources, ce n'est qu'une partie du travail de l'enseignant, et il y a beaucoup plus. L'enseignant, il trouve d'un côté, mais une fois qu'il a produit, il va tenter d'exposer ses ressources pour qu'elles soient vues. Cet enseignant, il peut parfaitement créer des choses parce qu'il a envie de produire quelque chose de nouveau, mais s'il trouve quelque chose d'intéressant, il va le réutiliser, que ce soit en partie ou que ce soit en entier. Donc on est dans une situation très complexe, finalement, où on doit produire à partir des trouvailles que l'on fait, mais l'on doit aussi créer son propre produit ou réutiliser un produit existant. Dans ce contexte-là, la réutilisabilité n'est possible que si j'ai un minimum de règles en commun avec les autres personnes. Donc dans cette logique d'indexation, si je sais trouver un objet qui sera compatible avec ce que je suis en train de faire, d'un seul coup je deviens extrêmement efficace, comme je le disais. Je peux comparer, donc je vais avoir une notion de qualité qui va rentrer immédiatement. Une fois que j'ai produit, je veux rentrer dans la danse, je veux exposer. Je suis un enseignant qui se dit, finalement, je bosse bien. Ce qu'on a entendu ce matin à propos du « je ne suis pas moyen », je ne sais pas. Je bosse bien, j'ai fait une jolie chose, je veux la partager. Il faut d'abord comparer pour savoir ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Sans liste de ce qui existe, il est impossible d'avancer. Et ensuite, une fois qu'on a fait valider par un dispositif ad hoc, que ce soit au sein de son administration, typiquement l'inspecteur pédagogique, l'académie, etc., ou que ce soit vis-à-vis des instances scientifiques, je peux exposer cette production au reste du monde. Mais si je l'expose, c'est pour qu'elle soit trouvée. Et je suis donc revenu au problème précédent. Pour qu'on trouve ce que je viens de faire, je dois respecter les mêmes règles que les autres pour que les outils qui vont les chercher me les trouvent. Donc que faire pour trouver ou être trouvé? L'idée que je vais choisir de développer avec vous, c'est un exemple que je crois être un exemple extrêmement démonstratif de ce qui marche bien. Et il se trouve que ça marche bien en France, alors profitons-en. Souvent on dit qu'on ne fait pas de très bonnes choses dans le monde numérique, là ça marche très bien. Dès qu'une ressource numérique est validée, c'est un point important parce que si vous laissez rentrer des ressources non validées dans le système, vous rentrez du bruit dans le système et vous risquez d'altérer son fonctionnement. Donc si vous avez une ressource numérique validée, dès qu'elle est mise à disposition, cette ressource, on va lui attacher une étiquette. Et cette étiquette, il y a dessus une description. Cette description, de façon tout à fait commune, vous admettrez avec moi qu'il est important qu'il y ait le titre, le nom de l'auteur, un résumé pour savoir un petit peu ce qu'il y a dedans, une liste de mots-clés. Ça m'arrangerait de savoir quel est le type documentaire si je cherche une vidéo, de l'audio, du texte ou une présentation. Ça m'arrangerait aussi de savoir techniquement comment ça se présente parce qu'il se trouve que j'ai un ordinateur qui a certaines contraintes et je dois pouvoir récupérer cette ressource. J'ai bien sûr besoin de son adresse pour aller la chercher dans son intégralité, et je dois savoir quels sont les droits qui lui sont attachés. Tout ça, finalement, c'est une liste de champs que nous partageons tous ensemble. Et toutes les étiquettes doivent donc avoir les mêmes champs d'information et surtout avoir la même définition pour chacun des champs. Grosso modo, ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est que nous souhaitons définir une grammaire qui va nous porter vers un langage de description des ressources partagées. On va trouver des outils très facilement qui vont être capables de vérifier la syntaxe, de valider le fait que ce soit accessible. Et donc, on va arriver à ce que l'on appelle la structuration des métadonnées, les métadonnées étant les informations sur ces ressources. Donc cet exemple, je le nomme en français puisqu'il est dit, il est issu de ce que sont les métadonnées des objets éducatifs, Learning Objects Metadata. Ce qui est au sommet, l'homme, c'est le standard international qui a été fait aux États-Unis par l'I3E. En dessous, l'homme-fr, c'est une norme française. On a rajouté des choses dont on avait besoin en plus du l'homme. En dessous, les universitaires se sont appropriés le l'homme-fr et ils ont dit voilà, on prend tout et en plus on a besoin de ça. Ça marche. Le scolaire, récemment, a fait la même chose. C'est approprié de tout, a rajouté quelque chose. Et je vous ai mis un banc dessous, parce qu'à l'ENS, on fait des choses encore plus compliquées. On s'est dit qu'il nous manque, qu'on voulait être le SCO, être le SUP, parce qu'on est à l'interface des deux. Et en plus, on a rajouté deux, trois petites choses, parce qu'on pensait que c'était utile en interne. Donc vous voyez sur cette démonstration que je sois à l'ENS, que je sois dans le scolaire, que je sois dans le supérieur, que je sois en France, je partage les mêmes informations de type l'homme. Je suis donc capable de mettre à disposition mes ressources. Donc ce dispositif, il n'a pas de frontières géographiques, il n'a pas de frontières de niveau et il s'adapte à la variété linguistique. Donc pour l'exemple concret, je vous le mets ici parce que les sites existent vraiment. Ce n'est pas du bluff ce que je vous raconte. À gauche, le site de la DGESCO, le portail de la DGESCO. J'ai choisi les sciences de la vie et de la terre pour cet exemple-là. À droite, un des portails que nous utilisons en commun entre la DGESCO et l'enseignement supérieur qui réutilise les données des universités numériques thématiques du supérieur. Et dessous, un portail qui regroupe tout ce qui peut être récupéré sur les sciences de la vie et de la terre au niveau de l'ENS. Vous avez donc ici une image de ce que peut donner l'utilisation d'une norme sur des métadonnées et sur de l'indexation de ressources. Alors les enseignants dans tout ça, pour conclure, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a très facilement une adhésion spontanée au dispositif, mais des réticences du fait de sa complexité. On trouve mieux, on perd moins de temps, les produits sont visibles et le travail est reconnu. Par contre, on doit nécessairement se mobiliser pour arriver vers des outils qu'on appelle des chaînes éditoriales qui permettront d'effectuer tout ça. Donc je reviens à un dernier point sur le fait qu'on a entendu parler tout à l'heure d'équipes tripartites. On en a impérativement besoin. Un enseignant seul ne peut pas s'en sortir. Il nous faut l'enseignant, l'éthiste et le documentaliste. Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste un point, si on veut appliquer aux autres un certain nombre de choses, on se les applique à soi-même. Voici donc la liste des sources que j'ai utilisées et la licence que j'applique à ce document. Il est donc ouvert, il n'est pas à but lucratif et il souhaite être réutilisé à l'identique. Merci de votre attention.
Merci à tous d'avoir fait un effort de rapidité, de concision. Donc François Taddeï pour la partie conclusive de la matinée. Donc François Taddeï, chercheur en génétique moléculaire, évolutive et médicale à l'INSERM.
Donc j'étais un peu surpris quand j'ai vu le titre qu'on m'avait donné pour cette conférence, d'autant que j'en avais donné un autre. Donc c'est pas évident de relever ce défi, surtout avant d'aller manger. Donc je pense que honnêtement je vais pas y arriver, je vous le dis tout de suite. Donc si vous voulez aller manger, allez-y tout de suite, ça ira plus vite. Et puis je vais essayer de faire court, mais je vais essayer de laisser du temps pour qu'on interagisse, parce que honnêtement parler du futur de l'école de manière magistrale, je ne pense pas que c'est la manière d'inventer le futur de l'éducation. Donc je vais essayer de laisser un peu de temps pour qu'on puisse interagir ensemble.
Ça ne fait rien, on va attendre. On va attendre pour manger, on peut...
Donc en fait,
pas de problème.
Moi, mon propre questionnement sur ce que devrait être l'école a commencé de manière très individuelle. Ça a commencé le jour où mon fils est rentré au CP et où sa maîtresse m'a dit « Il est charmant votre fils, mais il pose des questions ». Depuis ce jour-là, moi je me pose des questions sur le système éducatif. Et donc on peut se poser des questions en utilisant Google aujourd'hui, mais on n'a pas forcément de réponse à cette question-là, par exemple. On peut essayer d'avoir une approche plus socratique ou une approche plus collective, et c'est le genre de choses que je voudrais qu'on essaye de faire ensemble aujourd'hui, et puis dans la période à venir, qui me semble décisive. Je vais vous raconter aussi quelques anecdotes, parce que je pense qu'elles sont symptomatiques de l'époque dans laquelle nous sommes. Vous avez sur la photo du haut un monsieur qui se tient sa tête dans ses mains. Il était champion du monde d'échecs et ce jour-là, il a perdu contre un ordinateur. D'accord ? Il s'agit donc de Garry Kasparov. Et vous voyez qu'il n'était pas très heureux et vous voyez que tout le public était consterné. D'accord ? Et ce jour-là, The Economist a titré « Si votre métier ressemble aux échecs, préparez-vous à changer de métier ». Moi, j'avais joué pendant très longtemps aux échecs. Et j'avais l'impression que mon métier ressemblait aux échecs, et c'est pour ça que je l'avais choisi. En l'occurrence, c'était un métier de chercheur. Et je me suis dit, on a peut-être encore un peu de temps, mais l'avenir, je vous montrerai tout de suite que ce n'est pas si simple. Néanmoins, j'ai mis aussi qu'à part les échecs, il y a aussi des succès de l'homme, et y compris des joueurs d'échecs. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'organiser une compétition internationale, qui est une compétition où l'homme et la machine peuvent jouer ensemble contre des hommes ou des machines. D'accord. Et ce qu'ils ont montré, c'est que la plus grosse machine qui avait la meilleure capacité à jouer aux échecs a été battue par l'homme plus la machine. Et de manière intéressante, ce n'était pas nécessairement ceux qui avaient la plus grosse machine, ni ceux qui étaient les meilleurs joueurs d'échecs, c'est ceux qui savaient le mieux utiliser la machine. D'accord. Et donc ça, je pense que c'est assez clé de comprendre ça, et c'est ce que vous voyez sur la photo du dessous. Et donc, je pense que ça a des implications fortes pour l'éducation. D'accord. Puisque qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école ? Moi, honnêtement, je suis rentré dans une école qu'on appelle l'école polytechnique. J'ai été sélectionné sur ma capacité à mémoriser et à calculer. Aujourd'hui, n'importe quel ordinateur fait ça mieux que moi. Je pense que c'est même pas un défi pour IBM que d'inventer un robot qui puisse rentrer à l'école polytechnique en passant le concours. D'accord ? Donc, à partir de là, qu'est-ce que devrait être le système éducatif ? Qu'est-ce qu'on devrait apprendre à l'école ? Comment est-ce qu'on devrait apprendre aujourd'hui à l'heure où on a des machines aussi puissantes à notre disposition ? Donc ça, c'est une première question que je voulais vous poser. Et en particulier, moi je suis chercheur aujourd'hui encore, les ordinateurs ne m'ont pas encore remplacé, mais vous avez des robots qui ont commencé à publier des publications scientifiques. Non seulement les robots ont fait l'expérience, mais ils ont analysé les résultats et planifié l'expérience suivante. D'accord ? Donc ça pose des vraies questions sur comment est-ce qu'on doit former, y compris les futurs chercheurs. Donc ça fait partie des questions que je me pose beaucoup en ce moment. Et sur le panel de ce qui est à votre gauche, vous avez la croissance exponentielle du nombre de publications scientifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de publications scientifiques est multiplié par 100 tous les 100 ans. D'accord ? Par contre, le programme de classe préparatoire s'arrête toujours en 1905. D'accord ? Donc vous voyez un petit peu ce que j'ai pu apprendre en termes de physique, par exemple, et ce qu'il a fallu que j'apprenne par la suite pour arriver à garder un minimum de contact. Mais c'est évidemment difficile, parce qu'aujourd'hui, il y a 1 million de fois plus de publications qu'au XVIIIe siècle. Donc plus aucun d'entre nous ne peut maîtriser l'ensemble des savoirs. Par contre, on peut le faire de manière collective et essayer de faire des choses ensemble. Et donc ça, ce qui nous pose une autre question qui n'est pas simplement d'accumuler des savoirs, et il est important d'en avoir de base, mais comment est-ce que l'on apprend à créer de nouveaux savoirs? Et ça, c'est un défi qui est, à mon avis, un défi pour le XXIe siècle, et que François Jacob, qui est prix Nobel de médecine, a très bien articulé dans ce qu'il a appelé science de jour et science de nuit. Donc la science de jour, c'est celle qu'on apprend à l'école. C'est toutes les théorèmes, toutes les démonstrations expérimentales de choses qui sont dans le passé. D'accord ? La science de nuit, c'est l'exploration de l'inconnu. D'accord. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant intellectuellement. Et c'est un beaucoup plus grand défi. Le problème, c'est que, honnêtement, moi, je ne l'ai pas appris à l'école. D'accord. Y compris, il faut arriver en thèse et être dans un laboratoire pour y avoir accès. Comment est-ce qu'on permet aux plus jeunes d'accéder à ça, et au plus grand nombre, et pas aux happy few, aux quelques-uns qui ont la chance de pouvoir faire la formation que j'ai pu faire, par exemple. Et donc ça nous pose une question. C'est est-ce qu'on est capable d'inventer un autre système? Et est-ce qu'on est capable de dépasser les barrières qui sont devant nous? Est-ce qu'il y a des manières de les contourner? D'accord. C'est ce qui essayait d'être illustré sur cette image assez, assez parlante, je crois. Et moi, je me rends compte régulièrement que j'ai des nouvelles barrières devant moi et qu'il faut que je invente toujours de nouvelles manières de les contourner. Et je pense que c'est un problème qu'on a chacun d'entre nous à différents moments. Une de ces barrières s'est levée le jour où j'ai lu cette publication. Je vous encourage à aller la lire. C'est la publication qui a été écrite par les plus jeunes auteurs de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture telles que celle où Daniel Handler ou moi-même avons l'occasion de publier par ailleurs. Eh bien, je ne sais pas, essayez d'imaginer quel est l'âge de ces plus jeunes auteurs. Dites des chiffres, juste comme ça, à la volée.
6 ans.
12, 13, qui d'autre? 7 ans. Madame, et la plus proche, en fait, c'est 8 ans. D'accord. Donc là, vous avez le dernier auteur qui s'appelle Bolotto, il fallait l'inventer d'ailleurs. Je l'ai rencontré, il existe pour de vrai. Et à mon âge, mais tous les autres co-auteurs ont entre 8 et 10 ans sur cette publication. D'accord. Et c'est un problème scientifique que les enfants ont posé, ils se sont posé une question, ils ont inventé un système expérimental pour répondre à leurs questions, et ils ont pu démontrer les résultats qui sont décrits ici. Et vous pouvez lire par exemple le Principal Findings, ce qui est écrit en bas à droite. Alors vous voyez qu'ils ont découvert que les abeilles sont capables d'utiliser une combinaison de couleurs et de patterns spatiaux pour savoir quelles sont les fleurs qui sont les plus intéressantes. Mais ils ont aussi découvert quelque chose d'encore plus intéressant probablement, qui est que la science c'est cool, d'accord ? Que c'est fun et qu'on peut faire beaucoup de choses qu'on n'avait jamais fait avant grâce à ça. D'accord ? Et ça je pense que c'est extrêmement fort. D'accord. Et ça, c'est des enfants qui sont des enfants dans une école tout à fait normale. D'accord. Donc, c'est pas des enfants, des petits génies qu'on a tous mis ensemble dans un environnement particulier. Donc, ça, pour moi, c'était une de mes révélations personnellement. Et puis une autre qui a été publiée la même année, c'est l'année dernière dans Nature. Donc, Nature, c'est la plus grande revue scientifique. Et c'est, vous voyez, People Power. Donc une intelligence collective, on a parlé de catalyser l'intelligence collective depuis ce matin. Là, c'est un jeu, dit jeu de découverte scientifique, qui permet à des joueurs, en l'occurrence 250 000 joueurs ont déjà joué à ce jeu, de contribuer au progrès de la recherche. Hein. Donc ça, c'était un papier dans la Nature l'année dernière. Il y a eu un papier le mois dernier qui est paru à nouveau. Le mois dernier, ces joueurs ont su résoudre un problème scientifique qui avait échappé à la sagacité des chercheurs pendant 15 ans. D'accord ? Et on leur a donné ce défi et ils l'ont résolu en 15 jours. D'accord. Donc si on est capable de trouver des cadres de liberté qui permettent de focaliser l'attention des gens sur des problèmes réels, on arrive à faire des choses absolument extraordinaires. En l'occurrence, ils ont réussi à résoudre la structure d'une protéine qui est impliquée dans le sida. D'accord. Donc vous voyez un peu la motivation des gens pour essayer de contribuer à ce genre de choses. Et donc ce genre de jeu commence à exister, il y en a une poignée, nous ce qu'on voudrait c'est qu'il y en ait un millier. Et on voudrait arriver à créer beaucoup plus de jeux de ce genre. Et donc on est en train de lancer une compétition internationale pour créer de nouveaux jeux de ce type, dans lequel des chercheurs inventent avec des étudiants des jeux qui seront accessibles au plus grand nombre pour réussir à focaliser l'intelligence collective et à résoudre les problèmes du moment, qui sont, comme vous le savez, plus que nombreux. Donc voilà, ça fait partie des défis qu'on s'est donnés. La question, c'est comment est-ce que ces innovations peuvent se propager, d'accord ? Alors, je vais vous donner juste un exemple, parce que moi, je suis biologiste. Et donc, ça, c'est un exemple d'une jeune macaque à qui certains ont promis le prix Nobel, au moins des macaques. Et c'est une jeune macaque qui a résolu deux problèmes coup sur coup. Le premier, c'était de séparer... elle avait des pommes de terre, vous voyez ici avec une pomme de terre, qui leur avait été donnée par des Japonais, et elle devait se nourrir, mais ces pommes de terre étaient pleines de sable, elle a inventé une manière de les nettoyer. Et ensuite, on leur a plus donné des patates, on leur a donné du riz. Elle a inventé une manière de laver le riz. D'accord ? Donc vous vous imaginez sur une plage et vous essayez d'imaginer la solution qui vous permettra de remporter le prix Nobel des macaques. D'accord ? Vous devez arriver à séparer le riz du sable avec les technologies disponibles sur une plage. D'accord ? Donc voilà ce qu'elle a réussi à faire. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement qu'elle a réussi à faire ça, c'est qu'en fait c'était une jeune femelle macaque et que cette innovation ensuite, les chercheurs ont pu suivre la propagation de cette innovation. Elle a d'abord été copiée par ses pairs, en l'occurrence par ses sœurs et ses cousines, d'accord ? Et puis elle a été copiée par les garçons, enfin les mâles macaques, et les derniers à l'avoir copiée sont les mâles dominants, d'accord ? Donc ça, ce n'est évidemment vrai que chez les tribus de macaques, et toute autre tribu de primates fonctionne bien évidemment différemment. C'est un défi, je répondrai aux questions après. Si vous voulez, pendant le repas, on pourrait essayer de jeter notre repas dans le sable et d'essayer de résoudre le problème. Aujourd'hui, il y a d'autres manières de diffuser de l'information. TED est un site que vous connaissez probablement, et c'est une conférence particulière qui me plaît, c'est sur le virus ICANN, d'accord ? Le virus « je peux le faire ». D'accord ? Et donc, si vous pouvez regarder cette conférence, c'est une jeune enseignante qui a pris des enfants de 8 ans et qui leur a dit « allez dans le vrai monde et résolvez un vrai problème ». D'accord ? Elle a commencé avec sa classe. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de classes dans le monde qui font ça. D'accord ? Et il y a des enfants qui ont contribué à résoudre des problèmes dans leur quartier. Par exemple, en Inde, puisque c'est là qu'elle a commencé, il y a des enfants qui se sont battus contre la prostitution infantile. Il y a des enfants qui se sont battus contre l'analphabétisme de leurs parents. Il y a des enfants qui se sont battus contre le travail des enfants. Donc voilà le genre d'innovation qui aujourd'hui se propage très rapidement dans le monde, fort heureusement, et malheureusement pas encore en France, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Enfin, j'espère en tout cas. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on crée des cadres de liberté et d'innovation ? Ça, je pense que c'est le vrai défi. Et si on vient d'en haut et qu'on impose l'innovation et la créativité, évidemment ça ne marche pas. D'accord ? Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est l'encourager, la nourrir et permettre à ceux qui veulent innover de se retrouver entre innovateurs. Parce que par définition, quelqu'un qui veut innover est forcément minoritaire au moment où il veut le faire. Autrement, il fait quelque chose qui est déjà courant. D'accord ? Et donc, il ne faut pas lui dire « Ah ben non, ce n'est pas possible, ça n'a jamais été fait. » Parce que honnêtement, ça m'est déjà arrivé, et c'est arrivé certainement à beaucoup d'entre vous dans cette salle. Il faut donc arriver à créer des lieux dans lesquels l'innovation est encouragée. Et je me réjouis de voir que la DGESCO a créé une mission qui est chargée de faire ça, mais qui doit catalyser ce qui vient du terrain et permettre à ces choses-là de se multiplier. On a parlé de beaucoup d'innovations qui sont intéressantes. La question, c'est comment est-ce qu'on crée plus de cadres de liberté et d'innovation que ceux qui existent aujourd'hui, qui sont encore un petit peu limités, à mon avis. Un des exemples que je veux donner, c'est un exemple historique. Vous avez une gravure du 19e siècle qui montre un enseignant à l'extrême droite qui parle avec les élèves les plus grands. Et puis ensuite, vous voyez un de ses élèves parmi les plus grands qui parle à des élèves plus jeunes, et ainsi de suite. Et c'est répété quasiment à l'infini. Et donc ça a déjà été testé. Ça a montré son efficacité. Et en fait, c'est encore plus vrai aujourd'hui. D'accord ? Puisqu'aujourd'hui, l'innovation, elle ne se passe pas uniquement localement, mais elle peut diffuser globalement. Elle peut éventuellement naître localement, mais elle peut se renforcer et s'enrichir d'autres innovations venant d'ailleurs grâce à ces diffusions. Et donc ça, je pense que c'est une des choses qui me paraît vraiment importante aujourd'hui, c'est que ces innovations peuvent arriver à rentrer en résonance, et on peut créer un réel écosystème d'innovation qui permet d'inventer de nouveaux processus d'apprentissage et de nouveaux processus de construction de connaissances et de résolution de problèmes. Et je pense que c'est ça que c'est absolument clé pour les générations à venir. Et donc en fait, le défi, je pense, a fortiori dans le cadre de ce séminaire où on essaye de réfléchir, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du Sud. Il ne faut pas du tout avoir une attitude condescendante. Il y a énormément d'innovations qui viennent du Sud, en particulier d'Afrique, mais aussi d'Inde, d'Amérique latine ou d'Asie plus généralement. Et je pense que c'est très important d'être à l'écoute de ces innovations et d'avoir des lieux dans lesquels on peut faire en quelque sorte de l'import-export d'innovations et les adapter localement aux choses qui nous conviennent. Et en même temps, former les jeunes générations à cette capacité à inventer de nouveaux systèmes éducatifs. Parce que très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont essayé de faire des choses et qui tous les jours se battent pour que ça avance. Mais je pense qu'on a beaucoup plus de chances d'y arriver si on implique les jeunes générations que si on essaye, encore une fois, de manière un peu condescendante, de leur apporter des solutions toutes faites, qu'ils considèrent comme déjà dépassées, parce qu'évidemment, ils connaissent mieux les technologies que nous, en l'occurrence. Donc, je vais m'arrêter sur cette slide. Et puis je voudrais qu'on ouvre le débat. Et j'ai mis pour moi-même un certain nombre de questions qui me paraissent importantes. J'ai très honnêtement pas de réponse pour l'ensemble de ces questions. Par exemple, une des questions, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans une école ou dans une bonne université ou dans l'une des meilleures universités qu'on ne trouve pas encore sur le web ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la différence entre ce qui existe sur le web et ce qui existe ailleurs se réduise ? Parce qu'à l'échelle du monde, il faudrait ouvrir une nouvelle université tous les jours pendant 10 ans. Pour relever le défi de la formation à l'échelle du monde. D'accord ? Donc ça fait partie des défis importants, je trouve. Une autre question, c'est qu'est-ce que serait qu'une technologie socratique ? Vous savez peut-être que Socrate, en fait, n'aimait pas les technologies qui étaient disponibles à son époque. À l'époque, il n'y avait que l'écriture et la peinture, et Socrate était contre ces technologies-là, parce qu'il disait, quand on écrit ou l'on peint, on ne sait pas qui pourra bénéficier de ce que l'on a fait, et celui qui reçoit ne pourra pas questionner celui qui a produit cet élément de connaissance. Et donc, je ne suis pas certain que Socrate aimerait la télévision, par exemple, qui ne me paraît pas très socratique de ce point de vue-là. La question, c'est est-ce qu'il y a des technologies qui sont plus socratiques que d'autres, et est-ce qu'on serait capable d'inventer de nouvelles technologies qui seraient réellement socratiques, au sens où elles permettraient cette interaction, ce dialogue et cette co-construction des connaissances. Il y a un poème de T.S. Eliot que certains d'entre vous connaissent probablement, qui dit comment est-ce que l'on où est passée la sagesse que l'on a perdue dans la connaissance, où est passée la connaissance que l'on a perdue dans l'information. D'accord ? Aujourd'hui, on pourrait rajouter où est passée l'information qu'on a perdue dans les données. D'accord ? On vit dans des océans de données, dans des magmas d'informations, et on a besoin d'être capable de faire émerger des connaissances. Et on a besoin d'être capable éventuellement de faire émerger de la sagesse, au moins collectivement, pour essayer de prendre des décisions sur le futur de notre planète. Comment est-ce qu'on fait cet exercice-là ? Comment est-ce que l'on apprend aux jeunes d'aujourd'hui à naviguer dans ces océans d'information ? Comment est-ce que, quand on leur dit il y a une centrale nucléaire qui vient d'exploser, mais le nuage de radioactivité, cette fois-ci, il n'est pas dangereux, ce n'est pas comme avec Tchernobyl, on ne l'a pas arrêté à la frontière, mais on vous garantit qu'il n'y a pas de problème. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir si c'est vrai ou pas ? Comment est-ce qu'ils peuvent remettre en cause ou pas ce que d'autres peuvent en dire ? D'une manière générale, comment est-ce que, quand ils s'intéressent à une nouvelle idée, quand ils veulent innover, comment leur permettre de trouver des gens qui ont la même envie d'avancer qu'eux ? D'accord ? Comment créer ces frères d'idées comme il y avait des frères d'armes dans d'autres temps ? Comment est-ce qu'on peut permettre aux enseignants et aux apprenants d'innover ? Comment est-ce qu'on peut former les enseignants de demain différemment, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes enseigner différemment ? Vous connaissez tous les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je me suis permis de rajouter plusieurs C. Pour moi, il faudrait que ces technologies impliquent la créativité, la capacité à coopérer et la capacité à l'esprit critique, mais à une critique constructive. En France, on est très bon sur la critique négative en général. La critique constructive est un art beaucoup plus difficile qu'il serait très utile je pense qu'il faut former les jeunes générations à cet art difficile. Et puis, je reviens avec un certain nombre de ceux qui sont dans la salle du sommet mondial de l'éducation à Doha. Et il y avait une session sur apprendre à apprendre partout et tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Je pense en particulier à nos amis africains. Ils n'ont pas forcément les écoles qu'on peut avoir ici, et néanmoins, ils apprennent forcément en dehors de l'école, comme nos enfants apprennent fort heureusement pour eux aussi en dehors de l'école. La question, c'est comment est-ce qu'on invente des technologies qui permettent d'apprendre tout le temps et qui permettent d'apprendre et d'aller plus loin dans sa soif de connaissances. Donc ça, voilà, ça fait partie des questions que je me pose. Honnêtement, je n'ai pas toutes les réponses. Et je ne pense pas qu'on y apportera toutes aujourd'hui. On peut continuer en ligne pour ceux d'entre vous, mais je vous propose qu'on commence à ouvrir le questionnement tout de suite et qu'on continue pendant le repas.
Merci. Merci, bravo. Alors, on va continuer ce dialogue socratique sur tweet, hein, avec toi, sans problème, tu nous répondras, hein, on sera en phase. On a ces coordonnées, et puis on va organiser ça sur sancoré.org, comme ça il n'y aura pas de problème, on va se retrouver tous pour partager quelques réponses à ces nombreuses questions. Merci beaucoup.